Bonjour à tous, vous écoutez Psyché, la chaîne de podcast de Janssen Neurosciences qui donne la parole aux spécialistes qui pratiquent la psychiatrie au quotidien. Choisis pour leur expertise, inspirés par vos questions, ces praticiens vous apportent en 10-15 minutes un éclairage essentiel. Aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet de la dépression résistante versus la dépression sévère. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Mekaoui, psychiatre à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, CMME, au sein du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Bonjour docteur Mekaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a une première question importante par laquelle j'aimerais commencer. Comment posez-vous le diagnostic en pratique d'une dépression et celui d'une dépression sévère ?
Pour moi, le diagnostic de dépression se fait selon plusieurs étapes. C'est avant tout un diagnostic clinique. On essaie de recueillir des signes qui sont présentés par le patient, on recueille son anamnèse, l'historique de ses traitements. Et puis, si on suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on peut utiliser des classifications, que ce soit la classification CIM ou la classification du DSM-5. Ces deux classifications fonctionnent de la même manière. Il faut une présence d'un nombre minimal de symptômes pour pouvoir arriver à affirmer l'existence d'un épisode de dépression caractérisé. L'autre moyen qui permet de faire un diagnostic de dépression, c'est d'utiliser des auto-questionnaires, notamment le questionnaire PHQ-9, qui peut être rempli donc par le patient lui-même et permet de détecter la présence de ce nombre de symptômes minimal. Une fois que le diagnostic de l'épisode dépressif caractérisé est posé, on peut en évaluer la sévérité. Il existe trois niveaux d'intensité distincts, le niveau léger, le niveau modéré ou le niveau sévère. Chaque niveau est évalué selon différents critères. C'est à la fois le nombre de symptômes, leur intensité, mais également le retentissement de l'épisode sur le quotidien qui va permettre de pouvoir déterminer un de ces niveaux d'intensité. Ce niveau d'intensité, on le détermine à l'aide d'échelles cliniques, mais ça peut être parfois aussi le jugement du professionnel de santé qui le détermine. Les outils d'évaluation standardisés qui permettent de déterminer et dépression et intensité de la dépression peuvent être la BDI ou l'échelle de MADRS ou encore l'échelle d'Hamilton.
Et pour une dépression résistante ?
Pour la dépression résistante, il n'y a pas de classification ni dans le DSM-5 ni dans la CIM-10, mais il existe des critères qui font consensus. Ce que l'on sait, c'est que l'absence de rémission symptomatique après le recours à deux essais successifs d'antidépresseurs de classes pharmacologiques différentes, s'ils sont bien conduits en termes de posologie et de durée, peuvent conduire à ce diagnostic. Il est nécessaire au préalable de pouvoir éliminer les critères de pseudo-résistance. Les critères de pseudo-résistance, c'est soit le problème d'observance thérapeutique, si le patient n'a pas bien pris son traitement, en tout cas s'il a pris son traitement moins de 80% du temps, on peut parler d'inobservance et de pseudo-résistance. Les autres causes de pseudo-résistance sont les interactions médicamenteuses ou le métabolisme rapide des médicaments.
En quoi est-ce important, selon vous, de distinguer la dépression résistante de la dépression sévère ?
Dans le quotidien, la dépression sévère mobilise rapidement des soins, et ce parfois plus vite qu'une dépression résistante, comme si les questions du pronostic de ces deux troubles étaient différents. Dans la dépression sévère, bien entendu, on a toujours la crainte d'une urgence psychiatrique et d'un danger imminent pour le patient. En ce qui concerne la dépression résistante, il y a d'autres dangers, peut-être moins bruyants, peut-être un peu moins imminents, mais qui sont tout aussi importants. La question du pronostic de la dépression résistante doit en faire une urgence au même titre que la dépression sévère. En effet, les données de la littérature scientifique montrent qu'un épisode sévère peut, s'il est isolé, être bien pris en charge, alors qu'une dépression résistante peut mener à une forme de chronicité avec des conséquences sociales, familiales extrêmement importantes pour le sujet. On sait également que la dépression résistante peut amener à un plus grand risque de récurrence, avec, là encore, le risque que ces récurrences conduisent à un moment à une forme de chronicité. Et le pronostic, on va dire social, fonctionnel, du sujet est important. On sait aujourd'hui que plus on a passé du temps en dépression, plus on est à risque de garder des séquelles cognitives et attentionnelles de ces épisodes de dépression. Donc, il y a un vrai enjeu à pouvoir arriver à repérer la dépression résistante et à la traiter précocement.
À quelle fréquence les épisodes dépressifs évolueront vers une forme résistante ? Y a-t-il plus de risques pour les épisodes d'intensité sévère ?
Alors aujourd'hui, les données épidémiologiques sont relativement anciennes. La plus grosse étude qui nous renseigne sur la fréquence des épisodes de résistance, c'est l'étude Stardy, qui montre que 15 à 30% des épisodes de dépression pourraient être des épisodes qui évoluent vers une forme de résistance. On a peu de données épidémiologiques en France. On peut cependant citer le très beau travail de l'équipe de Bordeaux, publié en 2019. C'est une étude de pharmaco-épidémiologie. Cette étude s'est intéressée à essayer de retrouver les taux d'incidence de la dépression résistante d'après le recueil de prescriptions dans un échantillon de patients. Et on a déterminé que tous les patients qui avaient eu au moins 3 antidépresseurs sur 3 mois ou l'association d'antidépresseurs et de potentialisateurs étaient des patients qui répondaient à ces critères de dépression résistante. On trouve dans cette étude des incidences et des prévalences qui sont assez proches de celles des études internationales, avec une incidence qui était de 5,8 pour 10 000 cas de dépression et une prévalence de 26 pour 10 000.
En quoi la prise en charge diffère-t-elle ? Quelle stratégie thérapeutique adopter selon l'intensité de l'épisode dépressif caractérisé ?
Aujourd'hui, la prise en charge est différente en fonction de l'intensité de l'épisode et de la ligne de traitement. En ce qui concerne la première ligne de traitement et l'épisode dépressif caractérisé d'intensité légère, on propose en priorité des traitements non médicamenteux et plutôt des prises en charge d'ordre psychothérapique. En ce qui concerne les épisodes dépressifs caractérisés d'intensité modérée, eh bien, on va proposer une psychothérapie de soutien, mais on peut également proposer un traitement antidépresseur en association à ce traitement pour faciliter le travail psychothérapique et pour aussi favoriser une réponse rapide sur le plan clinique. Le troisième type d'épisodes dépressifs, qui sont ceux d'intensité sévère, demande la plupart du temps un traitement antidépresseur d'emblée, en l'absence de critères d'hospitalisation, et requiert aussi une orientation rapide vers un psychiatre pour une prise en charge spécifique qui associe psychothérapie et antidépresseur. Par la suite, lorsque l'on est en deuxième ou troisième ligne de traitement, on peut être amené à proposer des traitements non médicamenteux, comme la stimulation magnétique transcrânienne, la sismothérapie, et on peut aussi proposer des associations de médicaments.
Devant un épisode dépressif caractérisé, résistant à au moins 2 médicaments antidépresseurs successifs, que mettre en place pour son patient ?
Il y a aujourd'hui des consensus clairs qui ont été faits par les différentes sociétés savantes, qu'elles soient françaises ou internationales. Devant un tableau de dépression caractérisé résistant, on réalise de manière systématique un bilan biologique standard, un bilan métabolique, un dosage thyroïdien, notamment l'hormone thyréostimulante ultrasensible. On essaye, autant que faire se peut, de faire des dosages plasmatiques des médicaments psychotropes si ceux-ci sont possibles. On pratique un électrocardiogramme et une exploration d'imagerie cérébrale, plus vraisemblablement une IRM qu'un scanner, font partie des recommandations de ces sociétés savantes. Par la suite, on peut proposer différentes stratégies qui sont à la fois des stratégies de changement d'antidépresseurs, mais on peut également proposer des associations d'antidépresseurs. Au même titre que ces deux options, il est possible de potentialiser l'antidépresseur par un médicament d'une autre classe. Le plus souvent, les potentialisateurs sont les antipsychotiques atypiques, le lithium ou les hormones thyroïdiennes. Et puis, on peut proposer des stratégies non médicamenteuses, avec notamment la neurostimulation et le maintien de toutes les psychothérapies, qu'elles soient structurées ou non.
Selon vous, y a-t-il un intérêt, voire une urgence à prendre en charge de manière plus précoce la résistance chez ces patients ?
Pour moi, améliorer la prise en charge de ces patients est indispensable pour réduire les retentissements de la maladie. On sait que plus on avance dans les lignes de traitement, plus on augmente le risque de non-réponse au traitement. Donc, il y a une réelle nécessité de pouvoir agir vite pour éviter les récidives, mais également diminuer le fardeau de la maladie pour le patient comme pour son entourage. En synthèse, il existe plusieurs manières distinctes et non exclusives de qualifier un épisode dépressif caractérisé. Trois des caractéristiques qui permettent de décrire une dépression sont l'intensité des symptômes, la durée des symptômes et l'absence de réponse au traitement. La sévérité est fonction de l'intensité des symptômes, tandis que la résistance est fonction de la non-réponse au traitement.
Merci Dr Mekaoui pour votre participation et merci à vous de nous avoir écoutés. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le fardeau de la dépression résistante, découvrez le premier épisode de Psyché en compagnie du docteur Naban Abou. Bonne écoute !